Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein.
Mais j'espère que la route va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Mais oui, on est là comme tous les soirs, jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Merci d'être avec nous sur RMC Sport News à la télé, sur RMC bien sûr à la radio. À mes côtés en ce vendredi soir, on est vendredi, c'est ça hein.
Oui.
Le retour de la Ligue 2, c'est officiel. Jonathan Macardy est là, salut Jonathan.
Salut les amis.
Ça va?
Toujours.
Forme?
Ouais, toujours.
Il y a de l'info en Amérique du Sud, Mercato également.
Ah, il y a eu un beau truc aujourd'hui.
On parle de Gignac également peut-être à Boca Juniors, tu sais.
Oui, il en parle, mais à mon avis, ils peuvent s'accrocher.
Ce serait fou. Damien Perrinel est avec nous, le retour de Damien dans la semaine, cette semaine. Ça va Damien?
Bonsoir tout le monde, ça va très bien.
Bronzage perfectionné, vacances. Amélioré, vacances
de Corse.
Corse,
ouais.
4 jours en Corse. Il est là, messieurs, on est ensemble jusqu'à minuit. On a un gros programme ce soir. On va fêter le retour de la Ligue 2. Première journée, le débrief dans l'after, bien sûr. On espère avoir Bruno Luzzi. Vous savez qui c'est, Bruno Luzzi?
Bien sûr, entraîneur de Chambly.
Bien sûr, victoire historique pour Chambly. Chambly s'est imposé 1-0 ce soir face à Valenciennes pour sa première en Ligue 2. Chambly, on l'appelle, hein, 18 accessions en 30 ans. Aujourd'hui, club de Ligue 2, professionnel depuis l'espace d'un mois seulement, et qui s'impose dès ce soir pour sa première en Ligue 2. Dans un instant, on espère avoir le coach Bruno Luzzi, le Mercato Show au programme, bien sûr. Et puis, à 23h, après Julien Cazard hier, on fêtera le retour dans l'after, dès la rentrée prochaine, dès le 19 août, de Florent Gautreau, personnage éminent de l'after foot. T'as commencé avec lui, Jonathan, je crois.
Ouais. Après, c'était après la Coupe du Monde 2014.
C'était un peu ton parrain, finalement.
Un petit peu, les premiers afters, on était juste tous les deux. En radio, dans les anciens studios.
C'est, tu vas être ému ce soir ou pas un peu?
Bah, ça fait plaisir de le revoir. Attends, c'est génial.
C'est génial.
Attends, on fait un mercato galactique là.
C'est le plus beau mercato de l'été, j'ai l'impression.
Ah, je pense, oui.
Julien Cazard, Hugo Trou.
Largement.
Mais est-ce que c'est
pas
fini?
Sachant possible.
On ne sait pas encore, le mercato n'est pas fermé. Toujours. D'ailleurs, un hashtag a été créé sur la page.
Toi aussi,
Twitter.
D'ailleurs.
Oui, c'est un mercato, t'as raison, je suis.
Bon, t'es un galactique.
Un
Nico,
peu de l'anonymat.
T'es un galactique, Nico.
Bah oui. Hashtag. Ask Gautreau. Posez toutes vos questions les plus folles à Flo Gautreau qui, même s'il s'intéressait pendant 2-3 ans au bourrin, aux chevaux, aux courses, à l'équitation, il a des réponses à toutes vos questions.
Hein, pas d'équipe de tour quand tu es bourrin, c'est ça. Hein.
Arrête, t'es dur. Tire pas sur une ambulance comme ça. National 3, Tours.
Ouais, le pauvre.
Et on en parlera avec lui d'ailleurs. C'est le moment pour lui de reprendre le club. Hein.
J'espère qu'il a préparé 2-3 petites blagues.
Ah oui,
son magnifique et historique bémol.
Le bémol. Juste un petit bémol, s'il vous plaît.
Ouais, voilà.
Exactement.
Mais il est dirigeant à Tours en plus, je crois.
Jonathan, tu fais bien d'être là parce qu'on a préparé une surprise pour toi.
Ah ouais?
Je sais pas à quelle heure exactement, mais il y aura une surprise, un invité surprise pour toi.
Qu'est-ce que ça peut être?
Ben, je vais pas te le dire, c'est une surprise.
Ok. Non,
apparemment, il faut attendre minuit pour la voir.
Non, ce sera pas minuit, ce sera un peu plus tôt a priori parce que la surprise doit dormir également ce soir.
C'est une belle surprise?
Magnifique surprise, Jonathan Macardy. Allez, c'est parti pour l'after, messieurs. Mais on démarre d'abord.
Ça se tous les jours.
On appelle ça une fausse ouverture dans le jargon de la presse et des médias. Fausse ouverture. Avant d'évoquer la soirée de Ligue 2, une info transfert à RMC Sport, une grosse info transfert à RMC Sport. Ça concerne le LOSC. Le LOSC qui va vendre, sauf improbable retournement de situation, une de ses pépites. Il est portugais. Il s'appelle Rafael Leao. 35 millions d'euros au Milan AC, plus 20% à la revente. C'est la grande mode, hein, j'ai l'impression, depuis quelques mois. À chaque fois, il y a une signature.
Même Clinton Engie a un pourcentage à la revente, t'imagines?
Soit nous on le disait pas avant, soit on nous le disait pas avant, soit c'est devenu une mode.
Je pense que c'est devenu un peu une mode.
Mais une mode qui est pas idiote, pour le coup, cette fois-ci.
Non, pour Engie, mais pour Leao, ouais, c'est clair qu'il y a de l'intérêt.
Ça fait quoi? Ça fait baisser le coût du transfert, éventuellement? On négocie, spéculer sur l'avenir?
Ouais, je pense, peut-être.
Ouais, je pense que c'est surtout un argument de vente pour les clubs français notamment qui sont un peu comparés aux voisins européens un peu short parfois sur les finances. Donc ça permet de céder et puis pourquoi pas si ça explose, ça évite toujours aussi les éternels commentaires critiques. Ah oui, mais lui il a été formé là, on l'a laissé partir trop tôt.
C'est vrai, t'as raison, comme tu cours comme ça.
Avec ça toujours plaisir quand ça tombe. Regarde, il y avait là un million d'euros dans les poches de Jacques-Henri Hérault et de Zubizarreta.
Exactement.
Il s'y attendait pas, bam.
Exactement.
C'est tombé.
Et quand Engie partira pour 40 millions d'euros au Real Madrid.
Oui, 40
Marseille récupérera un pourcentage.
Oui, quand il sera en transfert en Détroit Détroit anglaise.
Il est dur.
On oublie d'être bête un peu en France et je trouve que c'est intéressant maintenant.
C'est ça, exactement. Alors, Léao, c'est une information RMC Sport signée Mohamed Bouassi en vacances, mais continue de bosser. Léao, attendu dans les prochaines heures à Milan, au Milan, pour passer la traditionnelle visite médicale. Dans les négo, c'est important de le préciser, le LOSC a insisté pour récupérer l'espoir portugais du Milan AC, Thiago Diallo, défenseur central, immense espoir portugais, qui est arrivé lui l'an dernier en provenant du Sporting du Portugal, comme Léo d'ailleurs avant d'arriver à Lille, et qui n'a pas joué un match pour l'instant avec le Milan AC, qui n'aura pas joué un match, il joue avec la Primavera, hein, c'est l'équipe réserve du Milan.
Ouais, il y a beaucoup de concurrence d'un côté à son poste au Milan AC. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a
19
Zaccio. Ils ont une défense centrale qui est quand même assez garnie. Alors,
5 millions d'euros, hein, Lille met pour Diallo.
Ça me chiffonne un petit peu cette affaire, parce que alors certes l'opération comptable elle est belle, 35 millions d'euros pour un jeune qui a une saison de Ligue 1 dans les pattes, qui est monté en puissance au fur et à mesure et qui a montré un super potentiel, mais qui aurait eu besoin de confirmer cette saison, c'est un bon prix. Lille est relativement bien pourvu au poste d'attaquant. Il y a Loïc Rémy qui semble connaître une belle fin de carrière au LOSC, qui depuis sur les 3-4 derniers mois elle a recommencé à marquer. Là en match de préparation il met des buts. Ils ont pris le petit Timothy Weah aussi.
Non mais Jonathan, je veux bien, t'as une grosse saison Ligue 1, Ligue des Champions à jouer.
Attends, je termine, tu vas voir.
Vas-y.
Ils prennent 35 millions d'euros, ils vont sûrement recruter un autre joueur. Mais ce qui me chiffonne un petit peu, c'est que dans cette logique en fait de trading, tu vois, où tu prends les joueurs et tu fais la caisse enregistreuse, c'est qu'il y a quand même un truc qu'il faut pas oublier, c'est que t'as un club de foot avec des supporters et d'avoir des joueurs qui sont juste de passage un an comme ça, sans avoir le temps de créer une attache émotionnelle, sans avoir le temps de créer une belle histoire, sans avoir le temps de créer un lien.
Mais c'est le foot
et le supporterisme. C'est du romantisme. Et je trouve que voilà, ça désincarne un petit peu ce projet lillois qui, certes, financièrement marche bien, sportivement ça marche bien, mais ça manque d'un petit truc, tu vois, de ce petit lien avec les supporters. Et Léao, c'est un typiquement le joueur qui aurait pu faire une grosse saison. Mais tu une saison comme ça, ou alors au final, il aura fait que 6 gros. Enfin, il aura pas fait toute la saison complète non plus.
Il a fait 24 matchs, 16 fois titulaire. 8 buts, 3 passes décisives.
C'est pas qu'un Youssouf 6 mois, mais c'est pareil.
C'est pas une saison complète. C'est dommage. Moi, je trouve, je me mets du point de vue des supporters qui auraient aimé peut-être créer une espèce de connexion avec ce joueur. C'est dommage. Après, l'opération comptable, elle est belle.
Elle est exceptionnelle. Il était arrivé gratuit du Sporting du Portugal.
C'est magnifique.
Gratuit, plus 35 millions d'euros dans la foulée, un an après au Milan.
C'est magnifique. Encore une fois, c'est là où je vais peut-être changer mon discours par rapport au LOSC et au transfert qu'il a pu avoir avant. Je crois qu'ils avaient prévu 5-6 départs. Il me semble. Alors, il y a au début de mercato. On avait eu. Il faut pas oublier qu'il y a Pépé. Pépé va partir encore.
On a
encore.
Vu l'état-major lillois et donc le président lillois au téléphone avant la fin de la saison. C'était avant le match décisif contre Lyon. Et Gérard Lopez nous avait dit qu'il y aurait 3 départs.
Ouais. Alors, ensuite, début de mercato, je crois qu'on était monté un petit peu. Mais là, le problème avec un Léao. Ouais, en effet, quoi. L'opération comptable est extraordinaire et bien sûr qu'on le vend. Alors, certes, la manière, on sait comment ils travaillent, comment ça se passe au LOSC au niveau, en matière de recrutement. S'ils l'ont vendu, c'est que certainement, ils ont déjà le remplaçant. Ça, j'en suis persuadé. Ils vont pas mettre plus de, leur transfert, là, ils ont mis quoi? 10 millions sur Weah.
Pour l'instant, ils ont mis,
c'est déjà beaucoup. Alors,
pour l'instant, ils ont mis environ.
C'est plus haut que ça.
Environ 30 millions d'euros, ils ont rentré pour l'instant, je faisais les calculs tout à l'heure, 81 millions d'euros.
Ouais, ouais.
En départ, Thiago Mendes, 26,5, Youssouf Koné, 9 millions, El Ghazi, Aston Villa, pour 9 millions d'euros, 35 millions d'euros pour Léao, et minimum 80 pour Pépé.
Ouais, mais attention, jusqu'où ne pas aller, en fait, au bout d'un moment, parce que on vend, on fait des opérations, mais au bout d'un moment. Il va y avoir la vente de trop et qui va déséquilibrer la totalité sur la Champions League. Exactement, ça peut être très compliqué.
On reprend le débat, messieurs. On reprend le débat, Léao, qui devrait partir pour 35 millions d'euros au LOSC, information RMC Sport. Mais on a notre premier invité Ligue 2 de la saison. Et on est heureux de l'avoir. On est heureux pour lui, pour son club également. Quelle belle histoire, celle de Chambly. Le FC Chambly-Oise, a remporté son premier match de son histoire en Ligue 2 ce soir. 1-0 face à Valenciennes, un but de Thibaut Jacques. On est avec Bruno Luzzi. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Il n'y a pas de sourire dans votre bonsoir là. Vous êtes heureux là, un entraîneur heureux.
Oui, bien sûr. Ça fait toujours du bien d'entamer un championnat par une victoire, qui plus est à domicile. Ouais, ça part de la meilleure des manières. On sait que ça sera compliqué sur la durée, mais justement, il faut prendre les points le plus vite possible.
L'été s'est bien passé, vous êtes devenu professionnel après une longue histoire. On lisait l'histoire de Chambly, on l'a déjà raconté plusieurs fois, notamment en Coupe de France. C'est 12 accessions en 30 ans, zéro relégation. Club fondé par votre famille, votre père, frère et vous-même. Ouais. Votre frère est président, Fulvio. Vous êtes Bruno le coach depuis 2001, 18 ans. Symboliquement, ouais, c'est quand même fort ce soir. Effectivement, c'est qu'un premier match. C'est que 3 points, la saison est longue. Ouais. Mais c'est fort symboliquement.
Ouais, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de débuter comme ça. Puis c'est, voilà, symboliquement, le premier match dans le monde professionnel, dans cette division, on l'aura gagné, ça on nous enlèvera pas. Donc, ouais, en tout cas, c'est vraiment sympa et c'est un beau clin d'œil à tout ce qui a été fait jusqu'à présent.
Bruno, c'est Damien Périnel. Déjà enchanté, c'est la première fois qu'on se parle, il me semble. J'ai une question à vous poser par rapport à ce premier match de championnat et justement à ce saut dans le monde professionnel. Quel a été votre discours tout au long même de cette préparation, parce que votre échéance c'était ce premier match de championnat contre Valenciennes. Vous étiez plutôt sur quelle attitude, de désacraliser l'événement, en gros de dire les gars c'est comme si on jouait la montée de National en Ligue 2, ou alors plutôt d'être assez méfiant et peut-être pourquoi pas de mettre de la crainte dans vos joueurs?
Un peu des deux. On n'a pas fait une prépa flamboyante au niveau des résultats sur 5 matchs. On a une victoire, 2 nuls, 2 défaites, donc c'était pas fanfaronnant. Mm-hmm. Après, ça reste des matchs de travail, faut être prêt le jour J, et ça a été le cas. Non, c'était plutôt j'ai appuyé aussi sur le côté un peu historique, comme quoi de toute façon les 18 qui étaient sur la feuille aujourd'hui resteraient les 18 premiers joueurs de Ligue 2 du FC Chambly. Mm-hmm. Ça semble rien aujourd'hui, mais voilà, vu ce qui a été fait et sait-on jamais par la suite, voilà, ça par contre on n'aura rien pas, et donc c'est important.
En tout cas, vous êtes vraiment entré là dans ce championnat sans crainte, sans appréhension et vraiment comme si vous jouiez un match même de national, quoi.
Il faut, parce que de toute façon, quand on a peur de perdre, on perd réellement.
Exactement.
Donc, il faut jouer les matchs, après on en perd, on en gagne, on fait des nuls, mais par contre il faut les jouer, il faut pas les jouer avant ni après, il faut les jouer pendant et faut surtout pas se mettre davantage de pression qu'il n'en est déjà.
Alors c'est pas simple pour vous également, parce que vous jouez pas dans votre stade, qui est pas homologué par la Ligue, vous jouez au stade Pierre Brisson de Beauvais, seule enceinte du département homologué d'ailleurs par la Ligue de football professionnel, 15 des matchs à domicile, vous jouerez également 4 matchs à Charletti, à Paris. Vous considérez que c'est un handicap, ça, quand même, clairement?
Bien sûr, faut pas se le cacher, mais après, Beauvais, c'est quand même la ville-préfecture, c'est centralisé dans le département, donc ça permet à chaque habitant de pouvoir rejoindre Beauvais très rapidement, et les accès, il y a un stade qui a une grande capacité. Donc,
c'était plein ce soir, ouais, c'était comment l'affluence, l'ambiance?
Ouais, il y avait 3000 et quelques, et encore, je crois qu'il aurait pu avoir un peu plus. Donc pour un fin juillet et pour un promu, c'est juste pas trop mal. Donc non, je pense que si on arrive à faire une saison correcte, on aura quand même un public quand même correct. Donc à partir de là, c'est bien. Après, ça reste pas chez nous, mais on n'a pas le choix. On n'a pas encore de stade. Ça a démarré la construction. Donc en attendant, on joue à Beauvais et puis voilà. C'est momentanément, on va dire, c'est chez nous.
Jonathan.
Bonsoir Bruno et bravo pour cette première victoire. Petite question, c'est alors l'objectif, on sait que ça va être d'essayer de se maintenir pour Chambly. Est-ce que vous avez particulièrement ciblé le début de saison? On sait qu'en début de saison, il y a pas mal d'équipes qui ont pas encore vraiment fini leur mercato, qui ont du mal à rentrer dans leur saison. Ouais. Vous reprenez très tôt. Est-ce que vous êtes fixé un objectif intermédiaire sur les 10 premiers matchs?
On s'est pas fixé un objectif de points, on s'était juste fixé un objectif de en termes de préparation. D'être athlétiquement prêt à avoir du jus dès le départ, parce que souvent, comme vous dites, les gros cylindrés prennent un départ.
Bruno,
allez-y. Il fallait à tout prix puisser très frais, en capacité de prendre le plus de points possible dès le départ. Donc, on va dire au niveau athlétique, on est dans ce qu'on avait prévu.
Bruno Lodi, coach de Chambly, vainqueur historique pour sa première en Ligue 2 ce soir, 1-0. Bruno, je suis un peu déçu, j'espérais du sourire, vous êtes dans une joie très contenue. Ah voilà, on a un rire.
Mais ça, c'est les picards, ça.
Non,
c'est froid à l'extérieur.
Ça fait partie de l'humidité. Je suis très content, mais
ça n'empêche pas. En tout cas,
super. Faut pas s'emballer parce que tout reste à faire.
Tout reste à faire, encore 37 matchs à faire, surtout la saison est extrêmement longue. Merci Bruno d'avoir répondu à nos questions.
Merci
Bruno. Toute
merci
la saison beaucoup. À vous suivre, évidemment, dans nos soirées et week-ends, dans l'after. Tiens, c'est peut-être la première fois que ça arrive, ça. Peut-être c'est arrivé en Coupe de France. On a au 32-16 un appel d'un supporter de Chambly. Tu vois, c'est aussi ça l'after. Là, c'est la Ligue. Ligue 2 également.
Super. Magnifique.
La Ligue 2 est qui devient de plus en plus intéressante également avec des coachs de Ligue 1. 11 coachs qui entraînent en Ligue 1 sont désormais coachs en Ligue 2. On pense à Paul Le Guen, notamment, bien sûr. On pense également à ton idole.
Jean-Marc Furlan.
Qui a décidé de rester en Ligue 2 d'ailleurs, lui, pour le projet. Emeric est avec nous. Salut Emeric.
Oui, salut. Comment allez-vous, Lester?
Mais très bien, et toi? Tu vas bien?
Ah, ça va. Qu'est-ce que ça fait plaisir.
T'étais au stade à Beauvais?
Ah oui, à Beauvais. J'ai eu la chance de pouvoir parler à l'entraîneur deux petites minutes.
Eh ben.
Et c'est impressionnant. Le calme qu'il a, c'est incroyable. Incroyable.
Attends, nous,
il dit, il reste 37 journées. On n'a rien fait. Et c'est impressionnant le calme qu'il a. Et j'ai pu parler au numéro 9 là, je sais plus comment il s'appelle, Guenouzi ou un truc comme ça. Et
mais pareil, tu connais bien ton équipe.
Hyper calme, c'est incroyable. Et on a gagné, mais les joueurs étaient contents, mais pas plus de sourire que ça. Ils ont dit c'est le premier match.
Emballez-vous, allez.
Attends, c'est historique, c'est
mais faut le fêter.
Tu marques.
Ah bah oui.
Ton première victoire, c'est la fête ce soir. Attends, qu'est-ce que tu nous fais là?
Absolument. En plus, moi, je viens de loin. Comme on peut pas jouer à Chambly, je suis à plus d'une heure pour venir. J'ai dit c'est le premier match, c'est historique.
Vous étiez nombreux, les gars.
Moi, j'habite à Senlis, je suis à une heure de Beauvais. J'ai dit allez, j'y vais.
Vous étiez combien de supporters de Chambly?
Ah bah moi je pensais qu'on allait être 2000, 3000, on devait être au moins 7 8000 voire 9000.
Bravo.
Magnifique.
Bravo. 7 8000.
Ah ouais, c'est bien les gars. Et
au moins 7000, ça c'est sûr.
Non, mais au moins t'es dans ton rôle d'être là, on te sent dans ta voix, toi, beaucoup de joie.
Ah, c'est bien.
Après, tu sais, quand t'es joueur, le prochain match est plus important. Hein.
Voilà, au début, je voulais acheter qu'une place, et je lui dis allez, c'est Chambly, ils sont en Ligue 2, c'est un petit club. J'ai dit allez, je vais peut-être m'abonner. Et quand j'ai vu tous les supporters, j'ai dit allez, je prends l'abonnement, quitte à rêver. Donc j'ai pas regardé, j'ai pris immédiatement l'abonnement, j'ai acheté.
Comment ça coûte, attends Emeric, c'est combien l'abonnement pour la saison de Chambly à domicile?
Ça dépend. Un d'argent.
Non, mais j'aime bien savoir ça.
Combien
vous êtes placé, mais le moins cher c'est 55 euros. Et le plus cher c'est je crois que c'est 199, et moi j'ai pris abonnement à 99 euros à côté de la tribune visiteur pour l'ambiance, comme je sais qu'il va y avoir Lens, qu'il va y avoir Guingamp.
Et pour mieux les jouer, pour bien les chambrer.
Il y a du Caen, il y a du Sochaux cette saison.
C'est ça. J'ai déjà noté le week-end fin du mois d'août. On va au Paris FC, donc j'y vais direct. Après, on reçoit Auxerre le 13 septembre. Donc ça, je vais y aller aussi. Après, je sais que un match historique le premier week-end du mois de décembre, on va à Lens. Alors ça va être dingue.
Bon.
Donc tu vas te régaler, Emeric.
On va suivre Chambly. Hein. Merci d'avoir appelé le 32-16. N'hésite pas.
Et bravo à tous tes copains qui ont fait le déplacement.
Et les gars, vous savez quoi?
Oui. C'est pas facile, hein, parce que comme a dit le coach, on joue pas à Chambly, donc il faut faire de la route, mais on est prêt pour tout pour cette équipe-là.
Hein. Bravo à Chambly également. Excellente soirée à toi. Les gars, on reproche parfois de parler que du PSG de Bordeaux, du PSG de Lyon et Marseille. Malheureusement, non. J'aimerais qu'on en parle plus. Lyon, Marseille et Paris. Et ben, on parle de Chambly dans l'after également. La victoire de Chambly, 1-0, c'était Guizoui le joueur dont il parler à l'instant. On va dans un instant, on va encore développer l'actualité transfert. Raphaël Léao, je vous le rappelle, qui va signer pour 35 millions d'euros l'attaquant du LOSC au Milan AC. Information RMC Sport, on en revient dans un instant avec Damien Perrinel et Jonathan Macardy. On va également donner tous les résultats de la Ligue 2 et puis le Mercato Show au programme de l'After ce soir. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, Nicolas Jamain.
Jonathan Macardy avec Damien Perrinel pour dérouler le fil de la soirée. Oui, la Ligue 2 a repris après la victoire de Chambly qu'on a évoquée. La joie à Chambly, 1-0, succès ce soir face à Valenciennes. Succès également d'un promu, Rodez s'est imposé face à un cador de la Ligue 2 en perte de vitesse depuis quelques saisons, la JOCR. Victoire 2-0 pour Rodez ce soir. Comment?
Attends un peu, il vient d'arriver.
Jean-Marc Furlan. Pour l'instant, c'est un échec pour l'OAOCR.
Mais tu es malade, toi.
Le club Brugge se maintient la dernière journée de la saison dernière.
Il vient de le reprendre, le club. Il y avait un entraîneur, on va pas trop. Bah, qui était pas. Voilà, hein. On sait ce qui s'est passé. Ludo, t'en parlerais mieux que moi parce qu'il a connu aussi. Le club se restructure bien. Ils ont pris le meilleur entraîneur français en activité.
C'est incroyable.
Il faut lui laisser du temps.
Il a voulu. Il est monté avec Brest en Ligue 1 à la fin de la saison. Il avait une prolongation sur le bureau. Il a voulu respecter. Rester en Ligue 2 aussi parce qu'il préfère jouer la montée.
Non.
En tout cas, les victoires. Que le maintien, et aussi parce que il lui a envoyé un mail.
C'est pas ça son discours.
La prolongation, c'est juste un mail.
Non, c'est pas ça. L'histoire, c'est pas ça, Nico. Je suis désolé. L'histoire, c'est que il a demandé vers la mi-saison d'aide à la prolongation, et que malheureusement les Brestois lui ont pas répondu, et qu'ils sont ramenés comme ça vers la fin de saison, une fois que la montée est assurée, avec une proposition de prolongation d'un an. Et lui, ce qu'il t'explique, c'est que d'une part, il cherche des projets sur le moyen terme où il peut construire un groupe et développer du beau jeu. Donc c'est pour ça qu'au CERN, on va être patient. Et d'autre part, par rapport à la Ligue 1, ce qu'il dit, c'est que lui, prendre un club de Ligue 1 pour jouer pour pas descendre, ça l'intéresse pas.
C'est ce que j'ai dit, non?
Non, t'as dit que Auxerre...
Il voulait pas jouer le maintien, il préfère jouer, gagner des matchs, non, que de lutter pour le maintien.
Pour lui, avoir une équipe de deuxième partie de tableau
t'as
en Ligue 1, ça sert
qu'il
à rien,
jouer
en
la montée. Non, il s'en fout de jouer la montée ou la descente. Ce qu'il veut, c'est faire du beau jeu. C'est un esthète.
Un esthète, le romantisme encore de Jonathan McCarthy.
Il a du boulot parce que quand on voit les deux buts qui se sont pris au CERF, c'est sur les phases de transition.
Ils attendent encore.
Il va y avoir du boulot.
Ils attendent encore trois recrues. Le groupe n'est pas complet. Là, ils viennent de faire signer leur attaquant cette semaine, là, qui joue au FC Thun. Ça, faut laisser un peu de temps au CERF, mais évidemment que ça a marché, quoi.
Rodez est battu au CERF 2-0 ce soir. Un but de Bonnet et de Henry. Et on est avec un supporter de Rodez. Salut, Régis.
Bonjour à tous.
Salut, Régis,
t'étais au stade également ce soir.
C'est ça, là, je sors, là.
Bon, alors, c'était comment? Parce que tout à l'heure, on a eu Chambly, c'était le feu à Beauvais pour la victoire de Chambly. C'était comment à Rodez?
Ah, ben, c'était le feu, parce qu'il y avait plus de 4000 personnes en tuerie, comme c'était à Paul Lignon auparavant. Et après, on a eu des joueurs exceptionnels, quoi. Comme on avait l'année dernière, c'est une même équipe. On a eu un super gardien, Desmas, qui a fait des arrêts de folie. On a eu un super défenseur central, capitaine, Bardi, qui est élu meilleur joueur depuis plusieurs années, on va dire national, CFA. Qui était exceptionnel. On remonte sur la ligne de colonne vertébrale, un Douline, un ancien pro de Clermont, impressionnant. Et pour finir, Hugo Bonnet qui est de folie depuis un an et demi.
Ouais, comment le fait de jouer au stadium, justement, pour vous, c'était un désavantage, un avantage, tu le sens, pour un premier match en Ligue 2?
Ouais, c'est nous on est contents parce que d'un côté on préfère être là que être à Bastia parce que Bastia il y aurait moins de supporters, quoi. Là quand même les rues ténoises se sont déplacées, 4000 personnes, c'est exceptionnel. Et même je pense que je regardais un peu les matchs du TFC, les gens de Toulouse ils vont plutôt venir voir Rodez que tout.
Ah oui, finalement c'est ce qu'on se dit, quoi. C'est vous qui allez remplir le stade.
Bah, c'est hallucinant, hein. Moi je vais voir des matchs de Toulouse, ça a rien à voir. Et même les occasions de but, hein. C'est Toulouse, c'est dégueulasse.
Attends, Régis, il y a un match de la saison, il y a une victoire de zéro.
Après, c'est vrai qu'on a un gros morceau contre Auxerre quand même pour les débuts.
C'est pas temps de s'emballer, c'est que là, en plus, je peux pas parler trop longtemps parce que je vais vous dire quelque chose d'exceptionnel. C'est que mes copains me cherchent, je suis en plein enterrement de jeunesse, ils me l'offraient pour moi.
Enterrement de jeunesse,
enterrement de jeunesse, ils m'offraient le match sur Rodez. Et ils sont en train de me chercher dans les rues.
Et c'est quoi la suite du programme, là? Parce que si l'enterrement de vie de jeune homme, c'est ça...
C'est toi qui vas te marier?
Eh oui.
Tu vas te marier, donc...
Et pourquoi?
Et pourquoi tu dis ça?
Je me marie en septembre. Mais là, je vous dis, je parle pas trop fort parce que je vais les voir qui sont en train de me chercher. Ils sont
et c'est quoi la suite du programme, alors?
La suite du programme, c'est que demain, je vais faire une journée exceptionnelle sur Albi. Ou sur Toulouse, ou je sais pas, et peut-être qu'ils veulent m'amener dans le nord.
À mon avis, ils vont t'amener par la frontière espagnole, dans des endroits peu recommandables.
Non, attends, tu sais pas.
Tout le monde
n'est pas comme ça.
Ah bah, attendez, tu connais alors.
Tout le monde ne va pas à Budapest ou à Belgrade,
notamment
des garçons, tu vois.
Je viens de te dire des établissements près de la frontière espagnole, et il vient de te dire qu'il les connaissait en plus. C'est ça qui est extraordinaire.
On va déraper, messieurs. On te souhaite un super mariage. Comment s'appelle ta future femme?
Et bonjour à Rotem.
Comment s'appelle ta future femme, Régis?
Et en plus, Jérôme, je crois qu'on l'a déjà vu à pas loin de Perpignan, nous aussi, dans les soirées.
Alors, Jérôme, souviens, il est en vacances.
Ta femme. Régis, ta future femme, comment c'est? Comment elle s'appelle?
Stéphanie.
Stéphanie, on l'embrasse.
Elle fait quoi ce soir, Stéphanie, elle?
Elle
est à la maison.
Bon, merci Régis,
c'est super.
Supporter de Rodez. Voilà,
merci,
c'est ça l'after
vous.
Aussi. Un moment un peu décalé. On a eu un supporter de Rodez et de Chambly. Et
qui se marie en
mais
plus.
Voilà, il se marie en plus. L'histoire est magnifique. Ta surprise est là. Ah bon. Jonathan McCarthy, on l'a annoncé, ta surprise est là. Ta surprise est double championne de France. Elle est championne d'Europe.
Bonsoir, monsieur.
Adieu.
Oh là là.
Et oui, Jonathan Macardy.
Bonsoir, monsieur Olmeta.
Pascal Olmeta est avec nous dans l'after.
Extraordinaire.
Bonsoir tout le monde. Comment il va, Jonathan?
Eh ben ça va, je suis impressionné là. Je transpire un petit peu là.
Oh putain, tout cet effet. Oh, bah.
Pascal, vous connaissez Jonathan? Est-ce que vous savez que vous êtes un de ses plus grands joueurs?
Ben écoute, je ne savais pas. Maintenant, je le sais. Il m'a mis dans l'équipe type. Ah. Ben, je le remercie.
Il n'y a pas de remercier.
Hein. On est toujours là.
Hein. Eh oui.
Écoute, Pascal, Jonathan, Damien, écoutez, on a fait le hashtag 11 de légende, 11 de rêve, tous ici, dans l'after, il y a trois soirées. Écoutez ce que disait Pascal, Jonathan, de vous.
Ouais.
Dans les cages, Pascal Olmeta, parce que c'était affectif. Un gardien emblématique de l'Olympique de Marseille, la personnalité, un petit peu délirante.
Premier goal volant.
Goal volant, voilà, le mec, c'est un bon mec. Et c'est un bon mec que tu as envie d'avoir dans ton équipe.
Ouais. Voilà, l'hommage de Jonathan Macardy, Pascal.
Mais
vous êtes un bon mec.
Merci, hein.
Eh ben
merci,
non, mais c'est vrai. C'est une Pascal, c'est une légende de l'Olympique de Marseille. Ce qu'il a fait à l'OM, il a laissé une trace indélébile. Et puis c'est un mec qui s'est fait, qui est tout, enfin partout où t'es passé, Pascal. Je pense que les gens t'ont tous adoré. T'as noué cette relation extraordinaire avec Sir Alex Ferguson. Enfin, tu fais des trucs. T'as ton association. Tu penses aux autres. C'est un bon mec, Pascal. Et je pense que si tu construis une équipe de foot et que t'as envie d'avoir des bons mecs, tu prends Pascal dans les cages. C'est tout.
Alors Jonathan, il tutoie sa légende.
Il a raison. Non mais ça fait vraiment plaisir de vous entendre souvent. Je suis branché, je vous écoute. C'est un plaisir.
Allez-y, Pascal, parlons un peu de vos clubs, vos anciens clubs également, parce que Jonathan défend, c'est pas simple, il est un peu isolé parfois, Olympique de Marseille dans l'after régulièrement, tout au long de l'été. Lui, quand on lui demande à Jonathan quel objectif pour l'OM cette saison, ne pas être ridicule, c'est ça qu'il veut voir. Vous voulez quoi de Marseille cette saison, Pascal?
Qu'est-ce que je veux? Comme chaque année, comme depuis des années, tout simplement... C'est qu'on puisse se régaler, qu'on puisse voir du beau jeu, qu'on puisse voir des hommes se battre.
Ouais.
Et après jouer le haut du tableau parce que c'est une ville qui le mérite. Et quand on a l'OM dans son cœur, je crois qu'on devient méchant tellement qu'il n'y a pas de résultat.
Et oui. Et Pascal, moi j'ai une petite question pour toi. C'est qu'est-ce que tu penses de Steve Mandanda? On sait qu'il a fait beaucoup d'efforts et beaucoup de travail personnel cet été. Il a été à Merano, il a perdu du poids. Là, bon, il semble être revenu dans des bonnes dispositions. Et est-ce que tu penses que c'est la fin ou est-ce que tu le vois faire aller une dernière bonne saison avec l'OM?
Non, mais pour un gardien, c'est jamais la fin. Hein. Je pense que si pour perdre du poids, c'est pas la peine d'aller chez notre ami Henri Chenot, Merano. Il vient avec moi ici. J'ai déjà perdu 5 kilos à m'occuper de mon domaine. Je crois qu'il y a rien de plus simple. Après, c'est tout est dans la tête. Et quand tu sais qu'un mec comme Steve, il peut jouer encore des années et puis te faire gagner des points. Non, mais c'est toute une équipe. C'est tout ce qui entoure. Et quand tu as... Quand tu as une équipe qui tient la route et qui se bat pour les couleurs et pour le maillot, tu peux aller que de l'avant et surtout avec un très bon gardien, ça c'est important.
Pascal, vous voyez pas sur RMC Sport News à la télé, on voit tous vos styles, tous vos maillots incroyables, parce que c'est ça aussi Pascal Olmeta, c'est des maillots fantastiques. C'est des coiffures étonnantes aussi parfois, Pascal, hein, une belle nuque longue à Marseille notamment. Le cheveu est court désormais, je crois. Vous êtes où, vous faites quoi actuellement désormais?
Ben désormais, je suis chez moi à Porti, tu vois, Ajaccio, à côté d'Ajaccio, et je m'occupe du domaine que j'ai monté, domaine Olmeta. J'attends le monde, j'attends les anciens, j'attends les Marseillais, les Parisiens, j'attends tout le monde.
Et Jonathan,
même les Parisiens.
Et
Jonathan, sûr, Pascal.
Je vous attends et on oublie
que Pascal était Marseillais, mais Pascal était Racingman, surtout Matra.
Et oui.
Et qui c'est mon club formateur. Et en tout cas, sachez que vous avez laissé une trace indélébile aussi au Racing à Colombes.
Il est passé, Pascal.
Il y a encore les photos de Pascal dans les bureaux à Colombes.
Et Pascal.
Ah ben, ouais, si je me permets, c'est que ma trace qui m'a marqué en tant que joueur, ça a été l'homme que j'ai côtoyé, l'homme avec qui j'ai passé pendant 4 années extraordinaires, c'était Monsieur Lagardère. Je crois que je le dis et je le répète, pour moi, ça a été un des présidents les plus emblématiques et les plus extraordinaires. Ça, malgré que les résultats n'étaient pas là. Mais bon, j'étais avec des joueurs fabuleux.
Pascal, dans mon équipe type, donc je t'ai mis dans les cages. Et alors, je te donne la défense. Tu me dis ce que t'en penses, si t'aurais été confiant ou pas. Alors, vas-y. Dans la défense, c'est une défense à 5 avec Dzimeko, Walter Samuel, oui. Nesta. Bon, j'ai mis Renato Civelli parce que voilà, c'est un de mes chouchous aussi. Patrick Blondeau sur les côtés. Et devant, numéro 6, je te mets Roy Keane. Est-ce que tu penses que tu prends beaucoup de buts avec ça?
Non, je me serais emmerdé. Il y a que des tueurs.
Je sais pas si on finit tous les matchs en 11, mais en tout cas, ouais.
Vous avez du tueur également dans votre carrière devant vous. Là, on vous voit en photo avec Basile Boli sur RMC Sport News, évidemment.
Basile Boli aussi, faudrait qu'il vienne avec vous au domaine un petit peu perdre du poids, non?
Ouais, gros nounours, oui, oh là là.
Il y a du boulot avec Basile. Hein.
Merci Pascal. C'était un régal de vous avoir dans l'after ce soir.
Merci Pascal. Hein.
Excellente soirée. Vous venez quand vous voulez. Quand vous êtes à Paris, vous venez carrément en studio dans l'after, bien sûr.
Ouais, mais si je viens, je vous mets le feu après.
Ah bah vas-y, c'est ce qu'on veut, nous.
Et alors
Viens nous mettre
merci
le feu, Pascal.
Bon week-end, bonne soirée. Merci à tous.
Excellente soirée à
Pascal
Métard. Bonne soirée en Corse. Sympa, t'es content ou pas?
Mais magnifique, merci Nico.
Tu l'avais déjà parlé ou pas?
Une fois, ouais. Mais c'est génial.
Pascal Métard, écoute, on l'a appelé cet après-midi. Tout de suite, il a dit ok, pas de soucis.
C'est un bon mec.
Pascal Olmeta, légende, hein, un grand gardien français évidemment, grand personnage du football français années 80-90 bien sûr.
Je me souviens quand on était môme, on voulait se mettre dans les buts pour faire la fameuse Olmeta, c'est-à-dire prendre le ballon, remonter le terrain, balle au pied.
C'est-à-dire on disait le premier golf volant, sauf qu'on n'a jamais interdit au gardien de sortir du but.
Non mais c'est lui, il le faisait vraiment, il était zinzin quoi.
Il y avait lui, Higuita,
spectaculaire, Higuita,
faisait ça beaucoup.
Ouais. C'était un super gardien.
Super gardien, son gardien préféré en Ligue 1, vous savez qui c'est pas un hasard.
Huard
Olympique Lyonnais.
Ah, Anthony Lopez.
Il y a un truc, il y a un parallèle.
Je me disais,
actuellement.
Ouais, c'est Anthony Lopez.
C'est pas étonnant, tu vois.
Il aimait bien le style de gardien, un peu moins son comportement, d'après ce que j'ai pu lire.
Le style, c'est explosif, un peu spectaculaire, ouais.
Sauf qu'il a changé Anthony Lopez depuis un an et demi avec Grégory Coupé qui est arrivé et qui a calmé un peu Anthony Lopez. Messieurs, putain, mais c'est la soirée de Jonathan. Nous sommes avec le coach de la JOCR. Jean-Marc Furlan est avec nous. Bonsoir, monsieur Furlan.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Bon, c'est pas la meilleure façon de débuter votre saison avec la JOCR. On le disait à l'instant, battu par Rodez 2-0 ce soir. Comment vous l'analysez, cette défaite?
Ah oui, le scénario est vraiment un scénario catastrophe pour nous, parce que bon, quand tu joues un promu, que ce soit un promu de Ligue 1 ou Ligue 2 dans les 10 premiers matchs, c'est toujours compliqué. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Et là, on a donné encore plus d'enthousiasme à l'équipe, puisqu'ils ont marqué dès la première minute du jeu. Mais dans l'ensemble, par rapport à notre comportement en général, même si la GIA, comme je dis aux joueurs, c'est une équipe très traumatisée par ce qu'elle a vécu depuis ces 6 mois, derniers mois et même ces dernières années, et on l'a vu dans la première demi-heure, autant après, on s'est montré très très dominateur pendant 93 minutes. Ce qui nous manque un peu, c'est vraiment plus d'avoir plus d'occasions encore devant le but. Mais dans l'ensemble, dans les intentions, je suis satisfait de l'équipe. Mais c'est vrai qu'il y a un très gros travail à faire et surtout un travail pour redonner confiance à ce groupe. Autant dans les matchs amicaux, on a vu beaucoup de liberté dans la tête. Alors autant là, c'est un peu plus compliqué dans la confiance qu'ils peuvent avoir. Mais ceci dit, par rapport aux intentions, par rapport à notre match, c'est vrai que si on n'encaisse pas ce but dans les premières minutes, et bon, sur les deux premières intrusions des Aveyronnais, on prend deux buts. Donc ça a été beaucoup plus compliqué, même si on a dominé tout le match.
Jean-Marc, vous sentez ce club et ce groupe un petit peu marqué, clairement marqué par la saison dernière qui a été dure. Il a fallu s'arracher pour se maintenir.
Ah oui, tout à fait. C'est bon, tout à fait. Moi, c'est ce qui est très, très, très marquant. Par contre, les intentions sont très bonnes et on voit bien qu'il faut redonner confiance à ce groupe et puis que effectivement le championnat est très long et comment ils sont capables effectivement de passer au-dessus de ce qu'ils ont vécu ces derniers mois.
Bonsoir Jean-Marc, c'est Damien Périnel.
Oui Damien.
Je me souviens quand on jouait contre vous à 3, on se disait oh là, on va passer 90 minutes, on va courir après le ballon. C'était pas souvent ça. Là sur ce que alors j'ai pas de chance que en gros j'ai vu vos 35-40 premières minutes de oui. votre match. Donc en effet, je suis d'accord avec vous, le but encaissé très rapidement change tout. Parce que derrière, on a une équipe qui joue à 5, qui reste repliée sur elle-même et qui joue les contres à fond. Là où je vous ai vu peut-être un peu en difficulté, ce sont sur vos phases de transition quand il y avait des déséquilibres en première mi-temps. Je parle sur ce que j'ai vu, des déséquilibres avec les joueurs de Rodez qui se projetaient vite vers l'avant et parfois vos centraux qui étaient livrés à eux-mêmes. Est-ce que vous avez ce même sentiment ou vous voyez peut-être la chose différemment?
Oui, non, c'est tout à fait ça. Sur la première mi-temps, après, ça n'a plus existé du tout sur la deuxième mi-temps parce que les adversaires avaient moins de gaz. Mais sur la première mi-temps, c'était un peu ça. Ils nous ont mis en danger sur 3 ou 4 contres rapides parce qu'on prenait, suite au but marqué, on prenait énormément de risques en faisant monter Matteo très haut. Et c'est vrai que quand tu es dominateur, le plus dur, c'est effectivement comment tu arrives à stopper les contre-attaques. Évidemment, cet équilibre à trouver dans le jeu, c'est quelque chose aussi à construire. Les garçons n'ont certainement pas l'habitude de jouer ce style de jeu, donc c'est quelque chose à construire. Mais ce dont je suis le plus marqué sur ce match, c'est pas le fait d'avoir encaissé de but. En France, on se reproche toujours le fait, c'est vrai que c'est mieux quand tu prends zéro but, mais c'est surtout que par rapport à notre domination constante pendant 95 minutes, pour comment on n'a pas pu se créer encore plus d'occasions et comment on est capable effectivement au fil des mois, des semaines et des mois, être beaucoup plus efficace en étant dominateur et avoir beaucoup plus d'occasions pour revenir, quoi. Parce que les 4 ou 5, on a eu 4 ou 5 occasions très nettes et on n'a pas pu claquer pour les remettre en difficulté. Parce qu'à 2-1, après, tu remets l'adversaire en très grosse difficulté.
En doute,
on n'a pas su faire et ce qu'il faut travailler, effectivement. Il y a beaucoup de travail à faire, mais surtout par rapport à ce que l'équipe a vécu depuis un an ou deux, quoi.
Il y a un travail mental à faire, effectivement. Jonathan.
Bonsoir.
Non, il y a un travail global, technique, tactique et le travail mental, effectivement, il doit exister, mais c'est surtout que si tu gagnes un ou deux matchs, après,
c'est la confiance.
Voilà, exactement.
Bonsoir Jean-Marc. Alors écoutez, pour moi il y a pas le feu là, c'est le premier match. On sait que vous êtes là vous êtes dans un projet sur le moyen terme, que vous voulez refaire d'Auxerre une équipe compétitive. Il y a pas de souci, on va regarder avec beaucoup d'attention la suite de votre saison et avec beaucoup d'ambition. Moi je vous pose une question par rapport au mercato là, j'ai vu que vous avez fait signer un avant-centre qui arrive de Suisse, c'est ça, du FC Thun?
Oui. Oui, c'est ça.
Sur quel autre poste vous comptez étoffer votre effectif?
Surtout dans toutes les lignes, parce que d'ailleurs ça va être le travail à faire d'une façon très importante, et c'est pour ça que en fait on se rend compte que dans ce championnat la construction va être un peu plus longue pour nous, parce que on va avoir des arrivées de joueurs qui seront tardives, et effectivement, mais c'est pas dans un championnat, autant comme j'ai dit aux garçons, serait un match de coupe, un match un derby, t'es éliminé, t'as des boules, mais un championnat ça se construit, ça se bâtit, et comment t'arrives au fil des semaines et au fil des mois à être très compétitif, parce que dans un championnat à 3 points, que ce soit en Ligue 1, Ligue 2, comment être très très fort, et si vous m'interviewez au mois de mars, au mois d'avril, et qu'on est nul, là je serais très inquiet.
C'est autre chose, bien sûr.
Comment être très très fort entre le 15 janvier et le 15 mai? Donc nous, effectivement, il va falloir qu'on construise ce groupe au fil des semaines, au fil des mois. Mais dans l'ensemble, je suis quand même très satisfait des intentions de joueurs, parce que nous avons été très très dominateurs, mais on manque un peu effectivement de puissance devant. Et dans le recrutement va se faire à peu près dans toutes les lignes.
Jean-Marc, c'est vrai que bon, vous avez pris une décision étonnante pour beaucoup. Vous faites monter Brest en Ligue 1. Vous décidez, alors qu'il y a une prolongation, de quitter Brest pour prendre la JOCR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix exactement? On en parlait tout à l'heure dans l'after.
Bon, en fait, c'est pour moi une très grande douleur, parce que à la fois, je suis très heureux de travailler avec M. Braille et Cédric Dory, qui m'ont convaincu, et de travailler pour Lidon et la GIA. Je suis très, très heureux. Mais c'est vrai que j'ai vécu 3 ans dans le Finistère, absolument en fusion avec les supporters, avec le public et avec les Finistériens. Mais ce qui m'a brisé le mental, c'est quand le 15 février, j'ai reçu une proposition d'un an. Et là, je me suis dit, c'est difficile de se lancer quand t'as pas une confiance absolue de ta direction. La proposition d'un an, c'était pour moi
un manque de respect, Jean-Marc.
Pas du tout ça, mais une évidence, c'est-à-dire on veut plus de toi, quoi. Voilà, quelque part, on veut passer à autre chose.
C'était une manière polie de vous dire que c'était la fin d'un cycle, en fait.
Comment ?
C'était une manière peut-être polie de vous dire que chez les dirigeants, c'était pour eux, en tout cas, c'était la fin d'un cycle.
Oui, c'est ce que j'ai ressenti profondément, et c'est pour ça que je suis passé à autre chose avec beaucoup de douleur, parce que ce qu'on a construit en 3 ans là-bas avec les groupes, c'était quelque chose d'exceptionnel qui va nous marquer à vie. Voilà, mais ça a été beaucoup de douleur sur le plan sentimental, même si je suis très très heureux maintenant de travailler sur... Ouais. Mais c'est vrai que ça a beaucoup choqué beaucoup de gens dans mon entourage. Pourquoi tu restes pas en Ligue? Sauf que quand on te propose un an, comme ça, abrupt,
c'est facile de vous virer après, ouais.
Ouais, j'en veux à personne, absolument pas. C'est la vie d'un entraîneur, c'est la vie du business. Et là, le business, ça voulait dire, très sincèrement, on n'a pas envie forcément de travailler avec toi. Voilà, c'est tout.
Jonathan, dernière question très rapidement. Non,
c'est pas, en tout cas, dans l'after, sachez, monsieur Furlan, que moi, j'ai milité activement pendant de longues semaines avant l'annonce de votre signature au XR pour que vous remplaciez Rudy Garcia à l'Olympique de Marseille. Et je pense que j'espère. Non, mais ça peut paraître comme ça un peu fantasque. Ça peut paraître fantasque, mais j'espère qu'un jour, quelqu'un aura le. Allez, je sais.
Un club qui joue le top 5 en Ligue 1.
Les coronets.
Aura le coup
de vous donner un club du top 5 en Ligue 1. Bah, je suis sûr qu'avec un club, avec des joueurs de talent qui peut jouer aller le podium, vous pourriez faire des merveilles. Je pense sincèrement que vous êtes le meilleur entraîneur français en activité. Et j'espère qu'un jour, vous aurez cette chance-là.
Je te remercie. Vous n'étiez pas très nombreux à croire ça. Ah, j'ai
plaisanté. Il dit pas ça parce que vous êtes avec nous, Jean-Marc, ce soir. Il a déjà dit plusieurs fois.
J'ai même pas un t-shirt avec écrit Furlanis dessus. Furlanis.
Oui, les gars, exactement. Non, mais il y a beaucoup de journalistes qui m'ont interviewé dernièrement, des collègues à vous de journaux nationaux qui m'ont dit voilà, est-ce que vous savez quoi, qu'il y a le Furlanis en France qui existe? Ça, je ne savais pas.
C'est nous qui l'avons lancé, Jean-Marc.
C'est vous qui l'avez lancé.
Pour Jean-Marc, parce que quand j'avais une quinzaine d'années, Jean-Marc était un précurseur d'une émission à la télé qui parlait de tactique et uniquement de tactique. C'était enfin du foot.
Franchement,
lorsque vous étiez à Libourne. Et moi, j'ai grandi avec ça quand j'avais 12, 13, 14 ans. Et c'était vraiment super parce qu'on voyait. C'était assez profond comme émission au niveau tactique. C'était super sympa.
Jean-Marc, quand vous aurez du temps, vous passez à Paris. On se fait une bonne heure avec vous. Football pur, de tactique, de philosophie de jeu, de système également.
Ce serait magnifique.
Il va y avoir du débat.
L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Jean-Marc Furlan. Bon courage pour cette saison avec la JOCR battue 2-0 par Rodez. Bonne soirée. On revient dans un instant, bien sûr. Je vous rappelle les résultats. La Ligue 2, la première journée ce soir. Clermont-Châteauroux 3-0, Nancy-Orléans 0-0, victoire de 3 2-0 sur la pelouse de Niort. Ajaccio-Le Havre 2 buts partout. Guingamp-Grenoble, match fou, 3 buts partout, on ira dans un instant. Et puis Chambly a battu Valenciennes pour sa première en Ligue 2 1-0. Rodez, vainqueur de Auxerre 2-0. 0-0 entre Sochaux et Caen. L'after revient dans un instant. Le Mercato Show, bien sûr, et également notre invité ce soir, le revenant, The Revenants. Florent Gautreau est dans les couloirs déjà d'RMC. A tout de suite, c'est l'after.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
L'after est là comme tous les soirs à la télé sur RMC Sport News, à la radio sur RMC. On est ensemble jusqu'à minuit avec Jonathan Macardy, avec Damien Périnel. Dans un instant, Florent Gautreau va faire son grand retour dans l'after. En tant qu'invité d'abord.
C'est un enfant prodigue.
Ce soir, invité. L'enfant prodigue, encore une fois. Alors, c'est quoi Julien Cazard? Le retour de Claude Messi.
Julien Cazard, c'est le mercenaire. On a bien compris qu'il revenait pour l'argent. Flo, c'est autre chose.
Et lui, il revient pour le projet également. Flo Gautreau. Exactement. Il sera avec nous dans un instant. L'un des membres historiques de la famille de l'after. Posez vos questions au hashtag AskGautreau. Plein de questions étonnantes d'ailleurs qu'on lui posera.
Jérôme,
et qu'on volera.
Je me poserai des questions quand même à la place de
Jérôme Rotten. Ah, il est en danger, Jérôme Rotten.
J'aurai un peu le feu quand même.
Ah oui.
En plus, il a un très bon pied droit, Flo Gautreau.
Ouais, il a pas que ça, il a le cerveau aussi.
Oh là là, sentez-moi ça.
Je l'embrasse.
On mettra ça à la rentrée à Jérôme Rotten, bien sûr. La Ligue 2, on va fermer le chapitre Ligue 2 avec en évoquant un match fou ce soir. Guingamp, un des grands favoris pour la montée en Ligue 2. Ils ont quasiment que des joueurs qui ont évolué en Ligue 1. À Guingamp, on peut les citer. Ils recevaient Grenoble ce soir, l'équipe reléguée la saison dernière, avec Kerbrat en défense centrale, associé à Sorbon, Ndong, Do, Lucas Do, Ronny Rodelin, Ludovic Blas, Nbakuto, Nolan Roux en pointe. Guingamp a mené 2-0 dans ce match après une demi-heure de jeu. Grenoble est revenu à 2 partout après une heure de jeu. Guingamp a mené ensuite 3-2 à la 70e et JT pour un doublé a égalisé à la 72e minute de jeu. Tiens, on est avec Clément Brossard qui a commenté ce match tout à l'heure sur RMC dans la soirée Ligue 2. Salut Clément.
Salut Nico, salut à tous.
Match dingue, match fou, et les Guingampais tellement en colère qu'ils ont zappé la presse.
Ouais, c'est ça, des Guingampais frustrés, aucun passage en zone mixte. Les journalistes locaux me disaient que ça arrivait souvent l'année dernière, qu'ils s'attendaient à avoir un peu de monde pour ce premier match de Ligue 2. Eh bien, que nenni. Personne devant la presse, donc on a eu le droit quand même à quelques mots, puisque c'est obligatoire, de l'entraîneur Patrice Lhers en conférence de presse, que vous écouterez certainement prochainement sur RMC Sport. Mais côté joueur, personne, la frustration, la colère, donc dans les rangs guingampais, qui espéraient accrocher la victoire, puisque ça faisait 10 matchs officiels sans victoire pour Guingamp, et ben c'est un 11e match sans victoire ce soir.
Guingamp sur ce match-là, ils se sont sabordés parce qu'ils menaient 2-0, ils avaient le match en main. Alors évidemment,
tu as vu le but, hein, ouais. La réduction de l'écart.
Exactement.
C'est Caillard qui donne le ballon à Piquel, qui a plus qu'à le mettre au fond des filets.
T'as cette erreur de Caillard, t'as ce penalty loupé de Nolan Roux. Ouais. Au final, ils avaient le match en main et puis ça a basculé. Et à partir de là, bah voilà, c'est un petit peu ce dont Jean-Marc Furlan nous parlait. C'est un groupe qui est pas en confiance, c'est une équipe qui est pas en confiance, qui a pas gagné depuis très longtemps. Et c'est revenu la trouille. On va rendre hommage à Jérôme Breton, comme il dirait, c'est le caca culotte qui est revenu. Et ils sont sabordés alors qu'ils maîtrisaient vraiment ce match-là.
Le problème quand t'es sur le terrain dans ces moments-là, en effet, tu gagnes 2-0, tu sors d'une saison galère parce que comme tu l'as dit, hein, c'est un effectif de Ligue 1 qui était en Ligue 1 l'année dernière. Donc qui a également vécu ce traumatisme de la descente. Et là, quand t'es sur le terrain, tu gagnes 2-0, tu te fais rejoindre en plus sur une bourde malheureusement du gardien. Mais t'as tes vieux démons qui ressurgissent dans ta
tête. Attends, t'as une équipe de costauds d'expérimentés. T'as eu deux mois pour t'en remettre.
Malgré tout,
tu joues en confiance. Tu reçois
justement, j'ai une nouvelle saison. Allez, t'es sur le terrain, tu dis ah, ça repart comme l'année dernière, mais c'est pas possible. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors en revanche, il me semble qu'ils sont menés 3-2 et ils reviennent à 3-2.
Non, ils mènent 3-2. Ils mènent 3-2.
Ils mènent 2-0 et 3-2.
Mais le problème, c'est que tu les as sentis devenir incroyablement fébriles de se liquéfier à chaque fois que Grenoble, qui a pas fait un grand match non plus, Grenoble, hein, au final. Faut le dire. À chaque fois que Grenoble attaquait, tu sentais qu'il y avait le feu. Et voilà, bah quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, écoute, le groupe est de très bonne qualité. L'effectif n'a quasiment pas changé, hein, par rapport à la dernière saison en Ligue 1. C'est un groupe de qualité.
Il y a un nouveau coach, Patrice Lerre.
C'est un groupe qui a tout pour remonter. Patrice Lerre, c'est un très bon entraîneur. Maintenant, le premier travail, c'est dans les têtes. Et va falloir réengranger de la confiance et réapprendre à gagner surtout.
Merci Clément.
Je vous en prie,
ça a sifflé ce soir à Roudourou ou pas?
Un petit peu, ça a sifflé. Ouais, bah forcément, on s'attendait à une victoire. Mais après le but de Brian Pelé, pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, après le but de Brian Pelé, en fait, on n'a même pas eu le temps de se dire ça y est, c'est reparti, puisque deux minutes plus tard seulement, Grenoble a égalisé. Ouais. Donc c'est assez terrible pour les Guingampais qui maîtrisaient tellement, mais tellement cette
exactement
première période. Comment. On se disait à aucun moment Grenoble peut faire la différence. Et bien voilà, il a suffi d'une erreur de Marc-Aurel Caillard pour que tout reparte pour Guingamp. Et d'ailleurs, Patrice Lerre le disait. C'est cette erreur qui nous coûte le match et qui nous coûte la victoire. Et Philippe Hischberger, de l'autre côté, l'entraîneur grenoblois, le disait. Et ben, heureusement pour nous, malheureusement pour eux, ça a totalement relancé cette rencontre, cette erreur. Donc les Guingampais peuvent s'en vouloir. Un peu de sifflet, forcément, à la fin du match.
T'annonces, Jonathan.
Non, moi c'était pour, parce que comme on va s'arrêter sur la Ligue 2, c'était juste pour mettre un petit tacle à Kadewere, l'attaquant du HAC, qui a eu l'idée pas si maligne que ça d'aller célébrer son but face à la tribune des supporters de la CA Ajaccio. On se rappelle ce qui s'était passé lors du barrage entre les deux équipes. Donc voilà, c'était pas le truc le plus intelligent qu'il ait fait. On va avoir, c'est un tout petit tacle parce que ça reste un très bon attaquant, on va le suivre cette année, mais voilà.
Damien. Non, pour revenir sur le commentaire de Patrice Lerre. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée quand même de cibler. Bien sûr, son gardien a fait une connerie.
Pour la
elle ne le cible pas. Après, Patrice Lerre dit aussi que sa faute elle est entière dans ce match nul. Hein.
Ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire, il a quand même parlé de son gardien sur une première journée de championnat. Le gardien lui-même sait qu'il a fait une connerie et alors après de là à dire que tout a changé. Oui, ça, bien sûr que ça a influencé le résultat, mais alors on se met à la place d'un gardien. On connaît Patrice Lerre, parfois il peut avoir des relations assez conflictuelles avec ses groupes. Et aujourd'hui, je sais pas si c'est la meilleure chose
à faire de
dire ça sur son gardien et de le cibler malgré tout, quoi.
Bon, il a ciblé, il a vraiment notifié le fait de jeu. Après, il a entièrement mis sa part de responsabilité dans ce match nul. Il a dit que c'était un match nul. Et vu comme une défaite, c'est un lapsus que j'allais faire, mais collectif, et qu'il en voulait autant à son gardien qu'à ses joueurs et qu'à lui-même.
Okay.
Voilà.
Merci pour la précision.
Merci Clément
Rossard.
À Guingamp, match nul, 3 buts partout entre Guingamp et Grenoble. Vous savez qui est l'attaquant qui était l'attaquant titulaire à Grenoble? Florian Raspantino.
Oui, mais c'était pas l'avant-centre.
Il était en numéro 9
ce
soir.
Pas là. Ah, si, si. Il a beaucoup désonné en tout cas.
Il a beaucoup désonné, mais en tout cas, il était sur le front de l'attaque grenobloise ce soir. Florian Raspantino.
Ouais, mais c'est un
magnifique chanson.
Il a sa place. C'est un joueur de Ligue 2.
C'est un joueur
c'est
de Ligue 2.
C'est une anomalie qu'il ait un jour.
Il était à Valenciennes la saison dernière. 11 buts la saison dernière.
Mais voilà, c'est un bon joueur de Ligue 2.
Jonathan Macardy, Damien Perrinet, on vient dans un instant. Le Mercato Show, bien sûr. Toutes les infos Mercato RMC Sport. Je vous rappelle que notre info RMC Sport, c'est Léao, attaquant de Lille, 20 ans seulement, qui va signer pour 35 millions d'euros au Milan AC. On en parle également dans un instant. Flo Gautreau va nous rejoindre. Il est jugé à la porte devant le studio de l'After. Lui aussi, il connaît pas les nouveaux locaux. Il va découvrir la dimension qu'on a pris à RMC. À tout de suite pour l'After. On est ensemble jusqu'à minuit.
RMC.
Oh, il
l'After Foot.